Le parfumeur monta les 78 marches qui menaient à la petite porte brune de l'appartement de son oncle, en pensant que ce vieillard devait être bien vert pour toujours les monter sans se plaindre. Il trouva la redingote et le pantalon étendus sur le porte-manteau placé à l'extérieur. Madame Vaillant les brossait et frottait, pendant que ce vrai philosophe, enveloppé dans une redingote en molleton gris, déjeunait au coin de son feu en lisant les débats parlementaires dans le Constitutionnel ou Journal du Commerce. « Mon oncle, dit César, l'affaire est conclue, on va dresser les actes. Si vous aviez cependant quelques craintes ou des regrets, il est encore temps de rompre. » « Pourquoi romprais-je ? L'affaire est bonne, mais longue à réaliser comme toutes les affaires sûres. Mes 50 000 francs sont à la banque, j'ai touché hier les derniers 5 000 francs de mon fonds. Quant aux Ragon, ils y mettent toute leur fortune. »« Eh bien, comment vivent-ils ? Enfin, sois tranquille, ils vivent. » « Mon oncle, je vous entends, dit Birotteau, vivement ému et serrant les mains du vieillard austère. « Comment se fera l'affaire ? Dit brisquement Pierrot. J'y serai pour 3/8, vous et les Ragon pour 1/8, je vous créditerai sur mes livres jusqu'à ce qu'on ait décidé la question des actes notariés. « Bon, mon garçon, tu es donc bien riche pour jeter là 300 000 francs. Il me semble que tu hasardes beaucoup en dehors de ton commerce, n'en souffrira-t-il pas ? Enfin, cela te regarde. Si tu éprouvais un échec, voilà les rentes à 80. Je pourrais vendre 2 000 francs de mes consolidés. Prends-y garde, mon garçon. Si tu avais recours à moi, ce serait la fortune de ta fille à laquelle tu toucherais là. Mon oncle, comme vous dites simplement les plus belles choses, vous me remuez le cœur. Le général Foy me le remuait bien autrement tout à l'heure. Enfin, va, conclue. Les terrains ne s'envoleront pas, ils seront à nous pour moitié. Quand il faudrait attendre 6 ans, nous aurons toujours quelques intérêts. Il y a des chantiers qui donnent des loyers, on ne peut donc rien perdre. Il n'y a qu'une chance, encore est-elle impossible. Roguin n'emportera pas nos fonds. Ma femme me le disait pourtant cette nuit, elle craint. Roguin emporter nos fonds, dit Pierrot en riant. Et pourquoi ? Il a, dit-elle, trop de sentiments dans le nez, et comme tous les hommes qui ne peuvent pas avoir de femme, il est enragé pour... Après avoir laissé échapper un sourire d'incrédulité, Pierrot alla déchirer d'un livret un petit papier, écrivit la somme et signa. « Tiens, voilà sur la banque un bon de 100 000 francs pour Ragon et pour moi. Ces pauvres gens ont pourtant vendu à ton mauvais drôle de Du Tillet leurs 15 actions dans les mines de Wurtchin pour compléter la somme. De braves gens dans la peine, cela serre le cœur. Et des gens si dignes, si nobles, la fleur de la vieille bourgeoisie, enfin. » Leur frère Popinot, le juge, n'en sait rien. Il se cache de lui pour ne pas l'empêcher de se livrer à sa bienfaisance. Des gens qui ont travaillé comme moi pendant 30 ans. Dieu veuille donc que l'huile comagène réussisse, s'écria Birotteau. J'en serai doublement heureux. Adieu, mon oncle. Vous viendrez dîner dimanche avec les Ragon, Roguin et Monsieur Claparon, car nous signerons tous après-demain. C'est demain vendredi. Je ne veux faire d'aff... Tu donnes donc dans ces superstitions-là ? « Mon oncle, je ne croirais jamais que le jour où le Fils de Dieu fut mis à mort par les hommes est un jour heureux. On interrompt bien toutes les affaires pour le 21 janvier. »« À dimanche, » dit brusquement Pierrot. Sans ses opinions politiques, se dit Birotteau en redescendant l'escalier, « je ne sais pas s'il aurait son pareil ici-bas, mon oncle. Qu'est-ce qui lui fait la politique ? Il serait si bien en n'y songeant pas du tout. Son entêtement prouve qu'il n'y a pas d'homme parfait. »« Déjà 3 heures, » dit César en entrant chez lui. « Monsieur, vous prenez ces valeurs-là ? » lui demanda Célestin, en montrant les broches du marchand de parapluies. « Oui, à 6, sans commission. Ma femme, apprête tout pour ma toilette. Je vais chez Monsieur Vauquelin, tu sais pourquoi. Une cravate blanche, surtout. » Birotteau donna quelques ordres à ses commis. Il ne vit pas Popinot, devina que son futur associé s'habillait et remonta promptement dans sa chambre, où il trouva la Vierge de Dresde magnifiquement encadrée, selon ses ordres. « Eh bien, c'est gentil, » dit-il à sa fille. « Mais papa, dis donc que c'est beau, sans quoi l'on se moquerait de toi. Voyez-vous cette fille qui gronde son père ? Eh bien, pour mon goût, j'aime autant Héro et Léandre. La Vierge est un sujet religieux qui peut aller dans une chapelle. Mais Héro et Léandre, ah, je l'achèterai, car le flacon d'huile m'a donné des idées. Mais papa, je ne te comprends pas. Virginie, un fiacre ! Cria César d'une voix retentissante quand il eut fait sa barbe et que le timide Popinot parut, entraînant le pied à cause de Césarine. L'amoureux ne s'était pas encore aperçu que son infirmité n'existait plus pour sa maîtresse. Délicieuse preuve d'amour que les gens à qui le hasard inflige un vice corporel quelconque peuvent seuls recueillir. « Monsieur, dit-il, la presse pourra manœuvrer demain. » « Eh bien, qu'as-tu, Popinot ? » demanda César en voyant rougir Anselme. « Monsieur, c'est le bonheur d'avoir trouvé une boutique, arrière-boutique, cuisine et des chambres dessus et des magasins pour 1200 francs par an, rue des 5 Diamants. »« Il faut obtenir un bail de 18 ans, dit Birotteau. Mais allons chez Monsieur Vauquelin, nous causerons en route. » César et Popinot montèrent en fiacre, aux yeux des commis étonnés de ces exorbitantes toilettes et d'une voiture anormale, ignorant qu'ils étaient des grandes choses méditées par le maître de la Reine des Roses. « Nous allons donc savoir la vérité sur les noisettes, » se dit le parfumeur. « Des noisettes ? » dit Popinot. « Tu as mon secret, Popinot, » dit le parfumeur. « J'ai lâché le mot noisette. Tout est là. L'huile de noisette est la seule qui ait de l'action sur les cheveux. Aucune maison de parfumerie n'y a pensé. En voyant la gravure d'Héro et de Léandre, je me suis dit, « Si les anciens usaient tant d'huile pour leurs cheveux, ils avaient une raison quelconque, car les anciens sont les anciens. Malgré les prétentions des modernes, je suis de l'avis de Boileau sur les anciens. Je suis parti de là pour arriver à l'huile de noisette, grâce au petit Bianchon, l'élève en médecine, ton parent. Il m'a dit qu'à l'école, ses camarades employaient l'huile de noisette pour activer la croissance de leurs moustaches et favoris. Il ne nous manque plus que la sanction de l'illustre monsieur Vauquelin. Éclairé par lui, nous ne tromperons pas le public. » Tout à l'heure, j'étais à la halle, chez une marchande de noisettes, pour avoir la matière première. Dans un instant, je serai chez l'un des plus grands savants de France pour en tirer la quintessence. Les proverbes ne sont pas sots, les extrêmes se touchent. Vois, mon garçon, le commerce est l'intermédiaire des productions végétales et de la science. Angélique Madou récolte, monsieur Vauquelin extrait, et nous vendons une essence. Les noisettes valent 5 sous la livre, monsieur Vauquelin va centupler leur valeur. Et nous rendrons service peut-être à l'humanité, car si la vanité cause de grands tourments à l'homme, un bon cosmétique est alors un bienfait. » La religieuse admiration avec laquelle Popinot écoutait le père de sa Césarine stimula l'éloquence de Birotteau, qui se permit les phrases les plus sauvages qu'un bourgeois puisse inventer. « Sois respectueux, Anselme, » dit-il en entrant dans la rue où demeurait Vauquelin. « Nous allons pénétrer dans le sanctuaire de la science. » Mais la Vierge en évidence, sans affectation, dans la salle à manger, sur une chaise. « Pourvu que je ne m'entortille pas dans ce que je veux dire, » s'écria naïvement Birotteau. « Popinot, cet homme me fait une impression chimique. Sa voix me chauffe les entrailles et me cause même une légère colique. Il est mon bienfaiteur, et dans quelques instants, Anselme, il sera le tien. » Ces paroles donnèrent froid à Popinot, qui posa ses pieds comme s'il eût marché sur des œufs et regarda d'un air inquiet les murailles. Monsieur Vauquelin était dans son cabinet. On lui annonça Birotteau. L'académicien savait le parfumeur adjoint au maire et très en faveur. Il le reçut. « Vous ne m'oubliez donc pas dans vos grandeurs, » dit le savant. « Mais de chimiste à parfumeur, il n'y a que la main. »« Hélas, monsieur, de votre génie à la simplicité d'un bonhomme comme moi, il y a l'immensité. Je vous dois ce que vous appelez mes grandeurs, et ne l'oublierai ni dans ce monde ni dans l'autre. » « Oh, dans l'autre, dit-on, nous serons tous égaux, les rois et les savetiers. » C'est-à-dire les rois et les savetiers qui se seront saintement conduits, dit Birotteau. « C'est votre fils, dit Vauquelin en regardant le petit Popinot hébété de ne rien voir d'extraordinaire dans le cabinet où il croyait trouver des monstruosités, de gigantesques machines, des métaux volants, des substances animées. « Non, monsieur, mais un jeune homme que j'aime et qui vient implorer une bonté égale à votre talent. « N'est-elle pas infinie ? » dit-il d'un air fin. « Nous venons vous consulter une seconde fois, à 16 ans de distance, sur une matière importante et sur laquelle je suis ignorant comme un parfumeur. Voyons, qu'est-ce ? Je sais que les cheveux occupent vos veilles et que vous vous livrez à leur analyse. Pendant que vous y pensiez pour la gloire, j'y pensais pour le commerce. Cher monsieur Birotteau, que voulez-vous de moi ? L'analyse des cheveux ? » Il prit un petit papier. Je vais lire à l'Académie des sciences un mémoire sur ce sujet. Les cheveux sont formés d'une quantité assez grande de mucus, d'une petite quantité d'huile blanche, de beaucoup d'huile noire verdâtre, de fer, de quelques atomes d'oxyde de manganèse, de phosphate de chaux, d'une très petite quantité de carbonate de chaux, de silice et de beaucoup de soufre. Les différentes proportions de ces matières font les différentes couleurs des cheveux. Ainsi, les rouges ont beaucoup plus d'huile noire verdâtre que les autres. César et Popinot ouvraient des yeux d'une grandeur risible. Neuf choses ! S'écria Birotteau. Comment ? Il se trouve dans un cheveu des métaux et des huiles. Il faut que ce soit vous, un homme que je vénère, qui me le dise pour que je le croie. Est-ce extraordinaire ? Dieu est grand, monsieur Vauquelin. Le cheveu est produit par un organe folliculaire, reprit le grand chimiste, une espèce de poche ouverte à ses deux extrémités. Par l'une, elle tient à des nerfs et à des vaisseaux, par l'autre sort le cheveu. Selon quelques-uns de nos savants confrères, et parmi eux M. de Blainville, le cheveu serait une partie morte, expulsée de cette poche ou crypte que remplit une matière pulpeuse. C'est comme qui dirait de la sueur en bâton, s'écria Popinot, à qui le parfumeur donna un petit coup de pied dans le talon. Vauquelin sourit à l'idée de Popinot. Il a des moyens, n'est-ce pas ? Dit alors César en regardant Popinot. Mais, monsieur, si les cheveux sont mort-nés, il est impossible de les faire vivre. Nous sommes perdus. Le prospectus est absurde. Vous ne savez pas comment le public est drôle, on ne peut pas venir lui dire. Qu'il a un fumier sur la tête, dit Popinot, voulant encore faire rire Vauquelin. Des catacombes aériennes, lui répondit le chimiste en continuant la plaisanterie. Et mes noisettes qui sont achetées, s'écria Birotteau, sensible à la perte commerciale. Mais pourquoi vend-on des... « Rassurez-vous, » dit Vauquelin en souriant, « je vois qu'il s'agit de quelques secrets pour empêcher les cheveux de tomber ou de blanchir. Écoutez, voilà mon opinion sur la matière après tous mes travaux. » Popinot dressa les oreilles comme un lièvre effrayé. « La décoloration de cette substance morte ou vive est selon moi produite par l'interruption de la sécrétion des matières colorantes, ce qui expliquerait comment dans les climats froids, le poil des animaux à belle fourrure pâlit et blanchit pendant l'hiver. Hum ? Popinot. Il est évident, reprit Vauquelin, que l'altération des chevelures est due à des changements subits dans la température ambiante. Ambiante, Popinot, retiens, retiens, cria César. Oui, dit Vauquelin, au froid et au chaud alternatifs, ou à des phénomènes intérieurs qui produisent le même effet. Ainsi, probablement, les migraines et les affections céphalalgiques absorbent, dissipent ou déplacent les fluides générateurs. L'intérieur regarde les médecins. Quant à l'extérieur, arrivent vos cosmétiques. « Eh bien, monsieur, dit Birotteau, vous me rendez la vie. J'ai songé à vendre de l'huile de noisette, en pensant que les anciens faisaient usage d'huile pour leurs cheveux. Et les anciens sont les anciens. Je suis de l'avis de Boileau. Pourquoi les athlètes oignaient-ils ? « L'huile d'olive vaut l'huile de noisette, » dit Vauquelin, qui n'écoutait pas Birotteau. « Toute huile est bonne pour préserver le bulbe des impressions nuisibles aux substances qu'il contient en travail, nous dirions en dissolution s'il s'agissait de chimie. « Peut-être avez-vous raison, l'huile de noisette possède, m'a dit Dupuytren, un stimulant. Je chercherai à connaître les différences qui existent entre les huiles de faîne, de colza, d'olive, de noix, etc. » « Je ne me suis donc pas trompé, » dit Birotteau triomphalement. « Je me suis rencontré avec un grand homme. Macassar est enfoncé. Macassar, monsieur, est un cosmétique donné, c'est-à-dire vendu et vendu cher, pour faire pousser les cheveux. »« Cher monsieur Birotteau, » dit Vauquelin, « il n'est pas venu 2 onces d'huile de Macassar en Europe. L'huile de Macassar n'a pas la moindre action sur les cheveux, mais les Malaises l'achètent au poids de l'or à cause de son influence conservatrice sur les cheveux, sans savoir que l'huile de baleine est tout aussi bonne. Aucune puissance, ni chimique, ni divine. Oh, divine, ne dites pas cela, monsieur Vauquelin. Mais, cher monsieur, la première loi que Dieu suive est d'être conséquent avec lui-même. Sans unité, pas de puissance. Ah, vu comme ça... Aucune puissance ne peut donc faire pousser des cheveux à des chauves, de même que vous ne teindrez jamais sans danger les cheveux rouges ou blancs. Mais en vantant l'emploi de l'huile, vous ne commettrez aucune erreur, aucun mensonge, et je pense que ceux qui s'en serviront pourront conserver leurs cheveux. Croyez-vous que l'Académie royale des sciences voudrait approuver ? Oh ! « Il n'y a pas là la moindre découverte, » dit Vauquelin. « D'ailleurs, les charlatans ont tant abusé du nom de l'Académie que vous n'en seriez pas plus avancé. Ma conscience se refuse à regarder l'huile de noisette comme un prodige. »« Quelle serait la meilleure manière de l'extraire ? Par la décoction ou par la pression ?» dit Birotteau. « Par la pression entre 2 plaques chaudes, l'huile sera plus abondante. Mais obtenue par la pression entre 2 plaques froides, elle sera de meilleure qualité. » « Il faut l'appliquer, dit Vauquelin avec bonté, sur la peau même et non sans frotter les cheveux, autrement l'effet serait manqué. » « Retiens bien ceci, Popinot, » dit Birotteau dans un enthousiasme qui lui enflammait le visage. « Vous voyez, monsieur, un jeune homme qui comptera ce jour parmi les plus beaux de sa vie. Il vous connaissait, vous vénérait, sans vous avoir vu. Ah, il est souvent question de vous chez moi. Le nom qui est toujours dans les cœurs arrive souvent sur les lèvres. Nous prions, ma femme et ma fille et moi, pour vous, tous les jours, comme on le doit pour son bienfaiteur. » « C'est trop pour si peu, » dit Vauquelin, gêné par la verbeuse reconnaissance du parfumeur. « Ta ta ta, » fit Birotteau, « vous ne pouvez pas nous empêcher de vous aimer, vous qui n'acceptez rien de moi. Vous êtes comme le soleil, vous jetez la lumière et ceux que vous éclairez ne peuvent rien vous rendre. » Le savant sourit et se leva, le parfumeur et Popinot se levèrent aussi. « Regarde, Anselme, regarde bien ce cabinet. Vous permettez, monsieur ?» « Vos moments sont si précieux, il ne reviendra peut-être plus ici. »« Eh bien, êtes-vous content des affaires ?» dit Vauquelin à Birotteau, « car enfin, nous sommes deux gens de commerce. »« Assez bien, monsieur, » dit Birotteau, se retirant vers la salle à manger où le suivit Vauquelin. « Mais pour lancer cette huile sous le nom d'essence comagène, il faut de grands fonds. »« Essence et comagène sont deux mots qui hurlent. Appelez votre cosmétique huile de Birotteau. » Si vous ne voulez pas mettre votre nom en évidence, prenez-en un autre. Mais voilà la Vierge de Dresde. Ah, monsieur Birotteau, vous voulez que nous nous quittions brouillés. Monsieur Vauquelin, dit le parfumeur en prenant les mains du chimiste, cette rareté n'a de prix que par la persistance que j'ai mise à la chercher. Il a fallu faire fouiller toute l'Allemagne pour la trouver sur papier de Chine et avant la lettre. Je savais que vous la désiriez. Vos occupations ne vous permettaient pas de vous la procurer. Je me suis fait votre commis voyageur. Agréez donc, non une méchante gravure, mais des soins, une sollicitude, des pas et des marches qui prouvent un dévouement absolu. J'aurais voulu que vous souhaitassiez quelque substance qu'il fallut aller chercher au fond des précipices et venir vous dire « les voilà ». Ne me refusez pas. Nous avons tant de chances pour être oubliés. Laissez-moi me mettre, moi, ma femme, ma fille et le gendre que j'aurai, tous sous vos yeux. Vous vous direz en voyant la Vierge « il y a de bonnes gens qui pensent à moi ». J'accepte, dit Vauquelin. Popinot et Birotteau s'essuyèrent les yeux tant ils furent émus de l'accent de bonté que mit l'académicien à ce mot. « Voulez-vous combler votre bonté ?» dit le parfumeur. « Qu'est-ce ? » fit Vauquelin. « Je réunis quelques amis. » Il se souleva sur les talons en prenant néanmoins un air humble. « Autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. »« Ah ? » dit Vauquelin étonné. « Peut-être me suis-je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour les Bourbons sur les marches de Saint-Roch au 13 Vendémiaire, où je fus blessé par Napoléon. Ma femme donne un bal dimanche dans 20 jours. Venez-y, monsieur. Faites-nous l'honneur de dîner avec nous ce jour-là. Pour moi, ce sera recevoir 2 fois la croix. Je vous écrirai bien à l'avance. » « Eh bien oui !» dit Vauquelin. Oh, « mon cœur se gonfle de plaisir !» s'écria le parfumeur dans la rue. « Il viendra chez moi !» J'ai peur d'avoir oublié ce qu'il a dit sur les cheveux. Tu t'en souviens, Popinot ? Oui, monsieur, et dans 20 ans, je m'en souviendrai encore. Ce grand homme, quel regard et quelle pénétration, dit Birotteau. Ah, il n'en a fait ni une ni deux. Du premier coup, il a deviné nos pensées et nous a donné les moyens d'abattre l'huile de Macassar. Ah, rien ne peut faire pousser les cheveux, Macassar, tu mens. Popinot, nous tenons une fortune. Ainsi demain, à 7 heures, soyons à la fabrique. Les noisettes viendront et nous ferons de l'huile, car il a beau dire que toute huile est bonne. Nous serions perdus si le public le savait. S'il n'entrait pas dans notre huile un peu de noisettes et de parfum, sous quel prétexte pourrions-nous la vendre 3 ou 4 francs les 4 onces ? Vous allez être décoré, monsieur, dit Popinot. Quelle gloire pour le commerce, n'est-ce pas, mon enfant ? L'air triomphant de César Birotteau, sûr d'une fortune, fut remarqué par ses commis qui se firent des signes entre eux, car la course en fiacre, la tenue du caissier et du patron les avaient jetés dans les romans les plus bizarres. Le contentement mutuel de César et d'Anselme, trahi par des regards diplomatiquement échangés, le coup d'œil plein d'espérance que Popinot jeta par 2 fois à Césarine, annonçait quelque événement grave et confirmait les conjectures des commis. Dans cette vie occupée et quasi claustrale, les plus petits accidents prenaient l'intérêt que donne un prisonnier à ceux de sa prison. L'attitude de Madame César, qui répondait au regard olympien de son mari par des airs de doute, accusait une nouvelle entreprise, car en temps ordinaire, Madame César aurait été contente, elle que les succès du détail rendaient joyeuse. Par extraordinaire, la recette de la journée se montait à 6 000 francs. On était venu payer quelques mémoires arriérées.